Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est devenue la consommation type d'un Québécois en 25 ans? Un texte d'Alexis Riopel paru le 27 décembre 2024 dans Le Devoir. Aux petites voitures ont succédé les VUS. L'habitude de voyager en avion gagne en altitude. Dans les assiettes, le porc s'est changé en poulet. Les vêtements de qualité se font plus rares, le numérique a rendu possible une nouvelle économie de partage, mais aussi le déploiement d'une hyperconsommation toujours à portée de pouce. De 2000 à 2022, le nombre de véhicules légers par 10 habitants est passé de 4,7 à 5,8 au Québec, plus 23 %. Même dans la région de Montréal, où sont apparus des trains de banlieue, des stations de métro et des pistes cyclables, le ménage moyen ne possède pas moins d'automobiles qu'au début des années 2000. Toujours dans la région métropolitaine, la fraction des déplacements quotidiens réalisés en véhicule automobile se maintient autour de 65 %. Également, les véhicules vendus sont de plus en plus gros. En 2000, on vendait au Québec deux fois plus de voitures que de camions, une catégorie qui comprend les fourgonnettes, les VUS et les camionnettes. Deux décennies et demie plus tard, la tendance s'est inversée. Les concessionnaires vendent quatre fois plus de camions que de voitures. Les Toyota, Yaris, Hyundai, Accent, Honda, Fit et Ford Fiesta ne sont plus mises en vente. En parallèle, un nouveau cocktail de mobilité devient possible, à Montréal, du moins. Je suis membre de Communauto, je suis membre de Bixi, j'ai une carte Opus et on possède une voiture électrique pour notre famille de 6, illustre l'entrepreneuse en mobilité électrique Sarah Hood, coprésidente du groupe consultatif sur la carboneutralité qui conseille le gouvernement fédéral. Il y a quelques années, c'est à bord d'un gros véhicule à 7 places que sa famille se déplaçait. Au chapitre de l'habitation, les Québécois s'éparpillent de plus en plus. Entre le début du siècle et 2021, la superficie moyenne par logement est passée de 112 mètres carrés à 133 mètres carrés, une augmentation de près de 20 %. Durant la même période, le nombre de logements par 1000 habitants s'est accru d'environ 5 %. C'est donc dire que les gens vivent moins nombreux dans un plus grand logement, alors que les petits appartements abordables s'évanouissent. Au surplus, les maisons sont de plus en plus étalées. Entre 2006 et 2016, l'étalement urbain s'est accentué dans les régions de Québec, plus 19 %, et de Montréal, plus 11 %, tandis qu'il reculait à Toronto, moins 3 %. Une bonne nouvelle, les résidences québécoises consomment moins d'énergie grâce à des gains de performance et au réchauffement du climat. Notons aussi que le chauffage au mazout perd du terrain et que celui au gaz s'emballe. Mode éphémère. Dans l'industrie du vêtement, le tournant du millénaire a représenté un point de bascule. Entre 1995 et 2005, le Canada a démantelé ses quotas d'importation de vêtements. Le gaspillage vestimentaire est devenu beaucoup plus flagrant au début des années 2000. Et avant qu'on se rende compte de cette hémorragie-là, plusieurs années se sont écoulées, raconte Jeannie-Claude Vien, agente de développement en transition écologique à l'organisme Concertation Montréal, spécialisé dans la mode et le textile. En 25 ans, deux tendances diamétralement opposées ont émergé, la fast fashion et le seconde main. Dans les deux coins du ring, les téléphones intelligents jouent un rôle. Facebook et Kijiji facilitent la publication de petites annonces. Toutefois, les vendeurs de vêtements neufs utilisent aussi le commerce en ligne pour aguicher les acheteurs, et ce, avec des prix imbattables. Maintenant, tout le monde a un centre commercial au bout des doigts, fait remarquer Mme Vien. Alors que le prix de l'ensemble des produits de consommation a grimpé de 60 % entre le tournant du siècle et aujourd'hui, celui des vêtements est resté stable. C'est donc dire que les vêtements coûtent de moins en moins cher par rapport au reste de nos dépenses. Le Québécois moyen consomme 40 kilos de textiles, incluant aussi les rideaux, les draps, etc., par année. En fait, le renouvellement des garde-robes s'est tellement accéléré en un quart de siècle que les friperies ne savent plus quoi faire des dons. Pour les adeptes du seconde main, les vêtements de qualité des années 1990 y deviennent de plus en plus rares. Tout s'effiloche. On a perdu le réflexe de l'entretien, de la réparation, ajoute Mme Vien, 32 ans. Responsabilité inégale. Quand on évalue l'évolution du profil typique de consommation au Québec, il faut absolument garder en tête les immenses disparités dans la société, rappelle l'économiste François Delorme. En général, l'empreinte carbone d'une personne augmente beaucoup plus vite que son revenu, du fait des conséquences climatiques importantes des investissements des plus fortunés. Or, dans le dernier quart de siècle, et particulièrement depuis la pandémie, les plus riches sont ceux qui se sont le plus enrichis au Québec. J'habite à Austin, près du lac Memphrémégog, et on voit le 1%, dit le professeur associé à l'Université de Sherbrooke, en évoquant les nombreux skidoo et Porsche Cayenne qui circulent dans les environs. À ce chapitre, une tendance ne laisse pas de doute, l'aviation. De 2008 à 2023, le total annuel de passagers ayant pris un avion au Québec est passé de 14 à 23 millions, une hausse vertigineuse de plus de 60 %. Ce nombre comprend des voyageurs qui viennent de l'extérieur de la province, mais aussi les Québécois eux-mêmes. Tant chez mes étudiants que chez les gens plus âgés, je ne vois aucune remise en question quant au voyage en avion, se désole M. Delorme. Une place sur un long vol aller-retour représente en moyenne 1,9 tonnes de CO2. Manger mieux et l'alimentation? Portés par des motivations éthiques ou environnementales, les végétariens sont de plus en plus nombreux. En outre, à l'échelle nationale, la consommation de viande se transforme. En 2000, un Canadien moyen mangeait environ autant de poulets, de bœufs et de porcs. En 2021, il dévorait 34 kilos de poulets, 24 kilos de bœufs et 19 kilos de porcs. Cette transformation, probablement motivée par le prix abordable du poulet, est salutaire pour le climat. La production d'un kilo de poulet émet 10 fois moins de CO2 que celle d'un kilo de bœuf. Par effet collatéral, elle occasionne aussi une multiplication des animaux d'élevage, étant donné qu'une poule nourrit beaucoup moins de bouches qu'un bœuf. Sur les tables, le lait cède peu à peu du terrain. En ce qui concerne les fruits, la banane règne au sommet du palmarès canadien, et elle ne cesse de gagner en popularité depuis l'an 2000. La consommation d'ananas est aussi en hausse. Quant aux pommes, aux melons et aux pêches, des fruits qu'on peut cultiver ici, leur vente évolue en dents de scie, sans tendance claire. Parmi les féculents, les pommes de terre en arrachent et le riz montre ses crocs. Tous connectés. En toile de fond de ces moultes mutations, le téléphone intelligent. L'an dernier, 86 % des adultes québécois en possédaient un, par rapport à 58 % en 2016 et 0 % en 2000, bien évidemment. Le taux de remplacement est élevé. Plus du tiers des gens ont l'intention de s'en procurer un nouveau dans l'année à venir. Depuis l'an 2000, les émissions de gaz à effet de serre par habitant, basées sur la production nationale, ont diminué d'environ 20 % au Canada. Il faut aller plus vite, mais au moins on va dans la bonne direction, pense Mme Hood du groupe consultatif sur la carboneutralité. Cela dit, les gains sont surtout le résultat de grandes transformations industrielles et moins celui de changements dans les habitudes de vie des citoyens, ajoute-t-elle. C'était « Qu'est devenue la consommation type d'un Québécois en 25 ans ?» un texte d'Alexis Riopel, paru le 27 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les 12 travaux de l'entrepreneur autochtone, les obstacles de la loi sur les Indiens. Un texte de Simon Filiatreau, paru le 2 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Alors que les problèmes découlant de la loi sur les Indiens accaparent de plus en plus l'attention du public, notamment ceux qui ont trait à la discrimination liée au statut d'Indien, les obstacles auxquels se heurtent les entrepreneurs autochtones demeurent obscurs, particulièrement pour les principaux concernés. Un avocat spécialisé en droit des Autochtones nous éclaire sur ce sujet. Lorsque les clients autochtones de Nadir André, avide de se lancer en affaires, se présentent à son bureau, l'associé du cabinet Borden Ladner Gervais admet qu'ils repartent la plupart du temps déprimés après avoir saisi l'ampleur des obstacles juridiques qui se dressent devant eux. Le simple fait de devoir consulter un juriste sur ces questions est symptomatique et constitue une première embûche. La loi sur les Indiens est très difficile à comprendre, affirme l'avocat Inou. Sans compter que seule une poignée d'avocats au Canada sont familiers avec ce régime juridique qui n'a aucun équivalent dans le monde. Citation : Ce serait hautement risqué d'investir son propre argent ou de l'argent emprunté à une institution financière sans connaître exactement les tenants et aboutissants de ces défis. Fin de citation, dit Nadir André. Citation : Quand on a élaboré le système de réserve, l'objectif n'était pas de favoriser le développement économique, c'était de tasser les Autochtones du développement économique qui se passait à l'extérieur des réserves et de fantasmer à l'idée qu'ils allaient s'assimiler à la population canadienne en pratiquant l'agriculture. Fin de citation, explique Maître André. D'autant plus que ces obstacles de nature économique sont demeurés sensiblement intacts depuis l'écriture de cette loi du 19e siècle, poursuit l'avocat. C'est pourquoi de nombreux Autochtones préfèrent entreprendre leur projet d'affaires à l'extérieur de leur communauté, bien qu'ils ne soient pas tous à proximité d'un centre urbain. Le dédale de la loi sur les Indiens. Sur le plan économique, la source de tous les maux ne tient qu'à un seul précepte : les réserves sont la propriété exclusive de la couronne fédérale, Sa Majesté, lit-on dans la dite loi. De cette tutelle découle une panoplie d'aléas juridiques, à commencer par l'insaisissabilité des biens d'un membre résidant dans sa communauté par des tiers, comme des banques. En l'absence de garantie, celles-ci sont réticentes à octroyer des prêts hypothécaires. Or, cet accès au capital est crucial pour démarrer une entreprise du bon pied. Citation : Quand un Autochtone habite sur une réserve, le mot qui circule dans les institutions financières en règle générale, c'est « ne pas prêter d'argent ». Il y a un vrai red flag, peu importe la cote de crédit. Fin de citation, dit Nadir André. Établir le domicile de l'entreprise dans une réserve se veut également un défi de taille. Une fois constituée en société, une entreprise possède une personnalité juridique à part. Elle devient une personne morale. Or, cette nouvelle entité ne peut pas résider dans la communauté puisque le statut d'Indien ne peut lui être attribué, et ce, même si la société est détenue à part entière par un ou des membres de la communauté. Afin de contourner cette fin de non-recevoir, il faut effectuer quelques acrobaties juridiques. Selon Maître André, il existe deux types de droits fonciers qui n'existent dans aucun autre régime juridique, permettant à un membre d'exploiter son entreprise dans une réserve en toute légalité. D'abord, le permis d'occupation accorde le droit à toute personne qui n'est pas membre de résider dans la communauté, y compris une personne morale. Seulement, il faut obtenir l'aval du conseil de bande qui peut refuser la demande, autant pour des motifs réglementaires que pour des griefs personnels. Le permis doit ensuite être négocié avec Service aux Autochtones Canada, SAC, qui lui aussi jouit d'un droit de veto. La seconde option pour l'entreprise consiste à conclure un semblant de bail avec un membre habitant dans la communauté, ce qui peut inclure le propriétaire de l'entreprise lui-même. Encore une fois, le ministère doit signer le document pour autoriser le tout. Or, cette formalité n'est pas chose acquise. Le membre ou l'entrepreneur doit posséder un certificat de possession, un document conférant le droit de résider sur un lot délimité et d'y construire un immeuble sous peine de se voir expulsé en toute légalité. De même, le conseil doit consentir à l'octroi de ce certificat, après quoi c'est le ministère qui le délivre à condition de remplir de nombreux critères environnementaux et réglementaires. Le non-respect de ces procédures peut être lourd de conséquences. Citation : Les tribunaux considèrent toute forme d'arrangement autre qu'un certificat de possession comme étant l'équivalent d'un jeu de Monopoly, c'est-à-dire que tu n'as aucun droit légal. C'est comme si tu étais un squatteur sur les terres de la couronne. Fin de citation, affirme l'avocat, ajoutant qu'il n'est pas pratique courante de délivrer ses droits de résidence. Quelques échappatoires. Ces obstacles ne datant pas d'hier, Ottawa a instauré au fil du temps des solutions afin que les entrepreneurs autochtones puissent surmonter certaines de ces barrières. Tout d'abord, la loi sur l'accord cadre relatif à la gestion des terres de Première Nation permet aux communautés de rapatrier une série de pouvoirs réglementaires réservés à SAC et prévus dans la loi sur les Indiens en matière de gestion des terres, à condition qu'elles adoptent un code foncier. Cette avenue délaisse les règles complexes relatives aux divers droits fonciers. Sur les quelques 630 réserves au Canada, seule une centaine d'entre elles ont emprunté cette voie, selon Nadir André, qui explique difficilement son impopularité. Cela dit, la couronne demeure propriétaire de la réserve dans ce scénario. Une seconde solution abandonne justement le régime de tutelle de la loi sur les Indiens dans son entièreté, les ententes d'autonomie gouvernementale. Ces accords octroient aux communautés sensiblement les mêmes compétences qu'une province, mais uniquement à l'intérieur des limites des réserves. Aussi intéressantes ces deux options soient-elles, Ottawa préconise plutôt l'injection d'importantes sommes d'argent dans des programmes gouvernementaux destinés aux entrepreneurs autochtones afin de pallier les difficultés d'accéder à du capital. Notamment, les 150 millions de dollars investis dans le Fonds de croissance autochtone, dont les principaux bailleurs sont le gouvernement du Canada et la Banque de développement du Canada, sont destinés aux petites et moyennes entreprises autochtones. Certains programmes concernent également les projets communautaires, comme le projet immobilier et commercial de la nation Squamish au cœur de Vancouver, qui a bénéficié d'un prêt de 1,4 milliard de dollars de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, soit la somme la plus élevée jamais accordée par la Société d'État. Or, ces montants considérables se font absorber comme le ferait une éponge par la demande autochtone accrue, soutient Nadir André. Il s'agit d'une approche insoutenable, selon lui, puisque la tolérance des contribuables de financer ces programmes de financement vertigineux a ses limites. Sortir du moule de la loi sur les Indiens. Dans ces circonstances, force est de constater que les solutions visant à alléger les barrières de la loi sur les Indiens n'amèneront pas l'ensemble des Premières Nations à la terre promise. De l'avis de l'avocat, il faut sortir du moule de cette loi, à commencer par une reconnaissance accrue des droits territoriaux à l'extérieur des réserves. En effet, pendant que la croissance économique locale que génèrent les entrepreneurs autochtones peine à décoller, il y a à l'autre extrémité du spectre les projets d'envergure qui se déroulent sur les territoires ancestraux, bien au-delà des limites des réserves. Plus de 45 milliards de dollars ont été investis dans l'ensemble des 18 projets majeurs chapeautés par la First Nations Major Projects Coalition, un organisme national qui accompagne plus de 170 groupes autochtones dans la participation à des projets d'exploitation de ressources naturelles et de construction d'infrastructures. Toutefois, la majorité des nations autochtones au Canada ne sont pas parties prenantes de telles occasions d'affaires. En fait, l'écart à combler demeure grand considérant que les Autochtones, représentant 5 % de la population canadienne, ne touchent qu'à seulement 2 % du produit intérieur brut du pays, selon Nadir André, pour qui il manque encore des milliards. Citation : on peut essayer de trouver un blâme dans la loi sur les Indiens, mais il faut regarder les choses en face. Est-ce que c'est vraiment la loi sur les Indiens ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème de distribution de la richesse? Fin de citation, dit Nadir André. Maître André estime que les gouvernements devraient assujettir l'octroi de toute licence d'exploitation de ressources naturelles à une entente avec les communautés autochtones concernées. Une telle approche au cas par cas permettrait de répondre plus efficacement à leurs besoins. Le seul bémol, et non le moindre, est le chevauchement des territoires de différentes nations. Nadir André observe dans son radar d'avocat que ces conflits se retrouvent de plus en plus devant les tribunaux, refroidissant l'ardeur des investisseurs. C'est pourquoi davantage d'ententes de collaboration doivent être conclues, plaide l'avocat. Ces traités deviendraient exécutoires dès lors qu'ils s'appuieraient sur de solides assises juridiques, telles que des traités modernes. C'était « Les 12 travaux de l'entrepreneur autochtone, les obstacles de la loi sur les Indiens », un texte de Simon Filiatro, paru le 2 décembre 2024 dans Espaces autochtones.
Un as pour la planète. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 13 janvier 2025 dans la presse. Les fervents de tennis le savent. Les balles feutrées perdent rapidement leur tonus, de sorte qu'il faut souvent les changer. Insatisfait des limites du produit, un instructeur de tennis a développé un procédé pour leur redonner du rebond et les ramener au jeu. À partir du moment où vous ouvrez sa boîte, la balle commence à perdre ses gaz. Donc, même si vous ne l'avez pas frappée une seule fois, dans 3 à 5 semaines, elle ne sera plus bonne pour jouer, explique Richard Soucy, éducateur physique et responsable du programme de concentration tennis à l'école secondaire du Verbe divin à Granby, en Estrie. Même servi au sortir de l'emballage, une balle de tennis ne résiste pas longtemps sur le court. Plusieurs joueurs amateurs en changent après chaque rencontre et lors d'un tournoi, les professionnels en passent de nombreuses à chaque match. Ça me fatiguait beaucoup. Au point de vue économique, mais aussi environnemental, ça n'a pas de sens, lance Richard Soucy. Certaines balles de tennis usagées trouvent une nouvelle vocation, notamment dans les écoles, sous les pattes de chaises, pour en étouffer le bruit. Mais le grand bien voulait faire plus. Leur donner une deuxième vie de jeu. Écoballes. Pour raviver les balles ramollies et restaurer leur capacité de rebond, M. Soucy a fait appel au conseil d'un enseignant de chimie de son école, Alexandre Bourgeois. Après de nombreux tests, ils ont développé un mélange avec des gaz pour rendre la balle dure comme si elle était neuve. M. Soucy n'a pas voulu nous expliquer son procédé de pressurisation pour lequel il prévoit de faire une demande de brevet, mais il ne s'en cache pas. Son projet, baptisé Écoballe, est loin d'être terminé. Pour l'instant, ces balles remises en état doivent être utilisées dans les jours qui suivent parce qu'elles ne sont pas dans un environnement pressurisé après avoir été traitées. Mon défi, dit Richard Soucy, c'est de mettre la balle dans un environnement pressurisé pour la conserver. Si je te livre des balles et que tu les utilises seulement 3 semaines ou 1 mois plus tard, il ne faut pas que tu sois déçu. Avec les moyens de conservation qu'ils testent actuellement, seulement de 30 à 40% des balles demeurent aussi fermes après 1 mois, alors que les autres ont commencé à perdre un peu de leur pression, reconnaît-il. Ce n'est pas parfait, mais je vais y arriver. L'idée n'a rien de farfelu. Aux États-Unis, une entreprise a fait breveter un appareil pour recharger les balles de tennis. Les balles usagées sont placées dans un réceptacle cylindrique, scellé et chargé d'un gaz à haute pression comme le dioxyde de carbone, indique le brevet obtenu en 2014. 400 ans au dépotoir. L'empreinte carbone d'une balle de tennis neuve représente 0,58 kg d'équivalent dioxyde de carbone, équivalent CO2, a calculé la firme européenne EcoChain.
Ces émissions sont comparables à celles d'une voiture à essence roulant 2,4 km, montre un calculateur de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, EPA. Et dans un dépotoir, ces boules de caoutchouc enveloppées d'un mélange de fibres mettent jusqu'à 400 ans à se décomposer, signale l'ONU. Comment éviter qu'elles s'y retrouvent? Des initiatives, Recycle Balls, Recycle Bal Canada, Bal Jaune, etc., en récupèrent le caoutchouc pour l'incorporer à d'autres produits. Une marque néerlandaise, Renewable, commercialise des balles de tennis contenant 25 % de vieilles balles. Une designer belge, Mathilde Wittock, a conçu des meubles et des panneaux acoustiques intégrant des balles usagées. Tout cela ne représente cependant qu'une fraction des millions de balles fabriquées chaque année pour les joueurs de tennis. Prolonger leur durée de vie sur le court permettrait d'en consommer moins. C'est ce que fait Richard Soucy depuis un an, en utilisant des balles remises en état dans ses classes. Quand leur feutre est intact, elles peuvent même être rafraîchies plusieurs fois, à sa grande surprise, dit-il. À l'été 2024, il a aussi traité des balles pour Tennis Granby, l'organisme qui gère les courts municipaux extérieurs. On les a utilisées principalement dans les cours aux adultes, dans nos camps de jour et dans notre lance-balles. On a eu de beaux commentaires et on n'a pas entendu de commentaires négatifs, nous a indiqué la coordonnatrice aux opérations de Tennis Granby, Karine Blanchard. Des centaines de balles ont ainsi connu une nouvelle vie, dont certaines à deux reprises. Le volet écologique, on le rencontre assurément dans ce projet-là, note Madame Blanchard. Même si le procédé a un coût et même si on doit le refaire pendant la saison, ça revient moins cher que d'acheter une nouvelle balle, estime la coordonnatrice aux opérations. À terme, M. Soucy voudrait pouvoir faire le recyclage complet des balles de tennis en fin de vie, celles qui n'ont plus de feutre et qui ne sont même plus à l'étape d'être données à un chien, en travaillant avec des recycleurs de caoutchouc. En attendant, il continue d'accumuler les balles usagées qu'on lui donne pour poursuivre ses tests. C'était « Un as pour la planète », un texte d'Ariane Kroll paru le 13 janvier 2025 dans La Presse.